9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et AVS, ça veut dire à votre santé. Bon matin à tous. Et si je dis bon matin, c'est que Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima.
Bonjour Philippe, bon matin à nos auditeurs et auditrices. Comment ça va bien?
Ça va bien. Bien. Quand je vous vois, ça va bien.
C'est vrai?
Oui. Bon, psychothérapeute, coach parental et familial. Et vous m'avez fait connaître un compte Instagram, parce que vous êtes une geek maintenant.
Oui,
Merci, vous avez entrepris votre révolution numérique.
Oui, ça y est. Moi, je n'avais plus le choix, on va dire. Je dois être
vous
aussi sur
entraîné.
Les réseaux. Voilà, exactement. Et j'ai découvert une maman incroyable. En fait, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai découvert ou elle qui m'a découvert.
Non, mais c'est vrai, parce que c'est vous qui m'avez dit, oui, voilà. Faudrait qu'on invite Sonia, blablabla.
Voilà, ouais. Oui, oui. Donc Sonia du compte Instagram du Bleu par ici, donc qui nous fait l'honneur d'être là et de partager cette matinée avec nous.
Ça fait bonjour, merci à vous de me recevoir, je suis vraiment très très honorée d'être là.
Voilà.
Et effectivement, c'est ce que j'allais dire, je t'ai connue, je crois, avant. Et en fait, j'ai mes abonnés qui m'ont parlé de toi, j'ai ma maman aussi qui m'a parlé de toi, et effectivement, il fallait qu'on se rencontre. Voilà.
Super.
Alors, votre compte, j'adore le nom, en tout cas.
Ouais. Oui, ça cache beaucoup de bleus à la maison. Voilà, il y a beaucoup de garçons à la maison.
Ah, c'est des bleus comme ça?
Oui. Ah, vous avez pensé à autre chose?
Ah oui, moi, je crois que c'est du bleu.
La plage,
voilà, exactement. Ouais.
Le soleil.
Ouais. Ouais, parce que la symbolique du bleu, elle est, c'est l'immensité, c'est la grandeur, c'est la noblesse, c'est la confiance en soi.
On aime bien aussi. Voilà. On travaille tout ça aussi.
Alors, sur votre compte, vous partagez ce que vous appelez votre « mom life ».
Tout à fait. C'est ça, exactement. En fait, je suis tombée sur les réseaux sociaux pour montrer un petit peu la vraie vie et pour avoir des réflexions que nous, les mamans, on a au quotidien. Et surtout, montrer à toutes les mamans du monde qu'on peut être sur avoir différentes casquettes et très bien s'en sortir. Et surtout, se dire qu'on est ensemble. Quand on vit des choses, on les vit partout dans le monde de la même façon. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, on a ce souci de voir des feeds, des pages un peu parfaites. Mmh. Et c'est un peu difficile pour des mamans qui viennent d'avoir des bébés ou autres. Donc du coup, j'avais envie de casser ça et de montrer les coulisses pour qu'on puisse en rire ensemble. Donc je fais des petites vidéos drôles. Et surtout, maintenant, je parle de sujets, de réflexions, de tout ce qui peut nous toucher, nous les mamans, les femmes, les épouses et les filles.
Bien. Alors, vous êtes maman de 3 enfants.
Tout à fait. 3 petits garçons. Suleiman, qui a 6 ans maintenant. J'ai Ismaël, qui a 4 ans. Et Issan, qui a 1 an et demi.
Bon, ça s'est passé comment, la rentrée?
Très bien, merci. Ça a été plus de stress pour maman que pour mon grand, qui est rentré au CP.
Ça y est.
Quoi, c'est souvent les mamans qui ont plus de stress que les enfants. On refile le stress à nos enfants.
Absolument.
Donc, ouais. C'est une gestion des émotions.
C'est un cap, hein. Il passe un cap parce qu'il rentre dans la grande école.
CP, là, ouais.
Ah, bah CP, ouais. Ça y est, là, il est dans la posture d'élève.
Tout à fait,
il y a
devoirs,
plein d'apprentis. Ouais, exactement.
Donc, ouais,
alors nous, Sonia, on n'appelle pas ça les devoirs ici, nous, on appelle ça les vouloirs.
Les vouloirs.
Voilà.
D'accord, ok.
Exactement.
Bon,
comme ça change l'énergie.
Oui, on parlait d'énergie. Ouais, voilà.
Alors ça ne veut pas dire qu'ils veulent plus, mais en tout cas.
Ça, c'est sûr.
Ouais.
C'est pas sûr.
Je vais retenir celui-là.
Il faudra l'essayer, ça va être un peu le sujet aujourd'hui, hein, de qu'est-ce qui fonctionne dans la vraie vie par rapport aux cours de récréation. On va parler de la cour de récréation, les parents ne sont pas là dans la cour de récréation. Mm-hmm. La cour de récréation, c'est pas vraiment la même chose au CP d'ailleurs que dans les maternelles. Et ça change la vie. Et on verra si un enfant est attaqué, on lui conseille de se défendre ou de tendre l'autre joue.
Absolument.
Et vous, Sonia? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez quand même beaucoup changé d'avis.
Absolument.
Sur ce sujet-là.
Absolument. Alors, j'ai été un petit peu de temps maîtresse. Donc, du coup, j'ai eu cette casquette-là, enfin, ce rôle-là à jouer. Et j'avais ce discours de dire non, on n'alimente pas la violence. On ne va pas dire je me défends pour... Parce que ça va finalement alimenter les choses. Mmh. Et je suis devenue maman et les choses ont changé. Une fois que je suis devenue maman, j'ai été confrontée à la vraie vie. C'est quoi la vraie vie? C'est que finalement, mon fils, une maîtresse, elle se retrouve... Alors, bien sûr, on fait du mieux qu'on peut, les maîtresses d'ailleurs, je pense à toutes les maîtresses qui nous écoutent, on fait du mieux qu'on peut, mais avec une classe de 30 élèves, je gérais pas dans la profondeur, je gérais sur le moment, en one shot, ok, alors attends, on va voir ce qui s'est passé, mais pas sur de la profondeur et sur du long terme. Mmh. Donc le petit garçon qui est violenté plusieurs jours, plusieurs fois, finalement, je ne l'aide pas, je ne l'ai pas aidé. Donc, j'invite mes enfants à se défendre. je leur dis attention.
Donc maintenant,
aujourd'hui,
maintenant vous dites, voilà.
Absolument, je dis à mes enfants, si quelqu'un t'embête, tu as le droit de te défendre. Tu dois te défendre et comme au travail, tu traces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, c'est comme quand on fait une action et on fait un mail derrière. On trace pour qu'il y ait une preuve.
Oui.
Donc, tu te défends et tu vas le signaler à un adulte. Comme ça, il y a une traçabilité. Si ça se reproduit,
absolument.
Eh bien, au moins, on aura la traçabilité de ce qui s'est passé. Et surtout, t'en parles à papa, maman. Et on suit le truc, c'est super important parce que l'enfant, il se sent déjà protégé, il sent que ben il a son rôle à jouer aussi. Et c'est horrible pour un enfant parce que je suis passée par là, j'ai été maîtresse. Et en fait, je me dis, ben, j'ai eu des remords après parce que je me suis dit, mais je l'ai aidé 2 secondes en fait. Mmh. Et après, il a été encore embêté. Et j'aurais aimé lui dire, non, défends-toi, parce que je ne serais pas toujours là.
Mais aujourd'hui, vous lui diriez quoi? Défends-toi, mais il y a des enfants dont on a l'impression qu'ils ne peuvent pas se défendre.
Pourquoi? Alors, je veux bien un peu plus de...
Parce qu'ils sont plus timides, parce que...
Oui, parce qu'ils n'osent pas.
Parce qu'ils sont introvertis.
Alors, c'est à nous, parents, de les aider à se défendre, de les aider à essayer de trouver des solutions pour se sentir mieux à l'école. Ils passent leur journée à l'école. S'ils se sentent mal à l'école, c'est très, très dur. Et puis, en plus, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps avec mon grand. Il a été bousculé. J'ai tout de suite désamorcé les choses. Parce qu'en fait, ça alimente. Si ça dure plusieurs jours, on peut tomber dans l'harcèlement.
Oui.
Et ça,
c'est défaire, en fait, les mécanismes dans lesquels, en fait... Parce que dans la cour de récréation, on recontextualise, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la cour de récréation? C'est un temps de détente. C'est un temps de distraction, c'est un temps dans lequel donc après...
De détente passe... et par voie même de défouloir.
Et de défouloir, oui, exactement.
Ce que j'ai dit, hein, parce que, oui. C'est de la détente
plus. Oui, mais justement parce que...
Et les émotions, elles sont dans tous les sens à ce moment-là.
Dans tous les sens, pourquoi? Parce que c'est un moment où on lâche. Et quand il lâche, donc on lâche quoi? On lâche la concentration, on lâche les émotions, on lâche les comportements, donc on les voit. Dès qu'ils, d'ailleurs, quand on les lâche...
C'est un
lâché. C'est un lâché, on les voit, ils partent en courant. Oh, ils se mettent à crier, exactement. Donc déjà,
et ça part bien.
Et ça part bien.
Souvent.
Oui. Maintenant, c'est les enfants qui ont des difficultés d'affirmation, des enfants un peu soumis, des enfants qui veulent rester dans les clous. Et la difficulté, elle est là. Moi, je pense, et vous allez me dire, tu vas me dire Sonia et Philippe, et puis ceux qui nous écoutent. C'est déjà de lui apprendre, parce que si on dit à un enfant tu te défends, il faut lui apprendre c'est quoi se défendre.
Oui.
Parce que justement à ces âges-là, ils ne savent pas encore la limite, ils ne connaissent pas encore au niveau de la distance aussi physique. C'est ton corps, il t'appartient, et pour faire respecter l'intégrité de ton corps, ton intégrité physique, pour qu'elle ne soit pas violentée, qu'elle ne soit, on lui apprend ça. Ton corps, tu le respectes.
Oui.
Comme tu respectes le corps de l'autre. Tu ne touches pas les gens, tu ne les bouscules pas, tu ne les... Oui. Et c'est là où on commence à installer des attitudes de non-violence et être vraiment dans cette bienveillance. On le sait, dans cette émission, on parle tout le temps de la bienveillance.
Donner du sens, finalement.
Exactement.
Donc je te rejoins. Le souci, c'est que nous, parents, nous devons agir dans l'urgence, entre guillemets, parce que notre enfant va à l'école tous les jours. Donc, automatiquement, moi, j'avais fait un sondage, j'en avais parlé un matin à mes Mom Life, et je leur avais dit, vous, quelle est votre position? Est-ce que vous leur dites de se défendre ou pas? Et la majorité m'ont dit, je lui dis de se défendre.
Oui.
J'avais retenu un témoignage d'une maman...
Tu le rends.
On te bouscule, tu rebouscules. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant qui reprend, qui se fait bousculer, il se dit, ah oui, attends, j'ai affaire quand même à quelqu'un qui ose se défendre. Donc, je vais pas prendre la confiance, entre guillemets, et réitérer l'action. Parce que j'ai quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Alors qu'on a vu, on a pu, à travers des témoignages, j'ai pu comprendre que celui qui va tout de suite le dire à la maîtresse sans action pour montrer un petit peu son intégrité, tu vois, c'est parce qu'il a été touché dans
son affirmation, oui.
Voilà. Et ben, la personne en face avait une autre réaction.
Oui, il y a une autre attitude parce que c'est un jeu de pouvoir, en fait.
Exactement.
C'est des jeux de pouvoir.
C'est ça qui se joue.
Donc c'est ça qui se joue.
Mais ce que vous êtes en train de dire toutes les deux, c'est que c'est la cour de récréation, les parents ne sont pas là, mais les parents doivent s'en mêler.
Absolument, ça touche les tripes. Hein.
Oui, alors sans mêler, attention.
Parce que
moi, j'ai un bémol à apporter là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est souvent dans la cour de récréation que l'enfant va développer aussi ses compétences psychosociales, cette distanciation aussi sociale, avec qui je peux jouer, avec qui je ne peux pas jouer, avec qui je me sens bien, avec qui je me sens moins bien. C'est-à-dire que si le parent, alors moi je me rappelle, moi j'étais une maman comme ça. Moi, j'étais carrément une maman qui espionnait, qui avait acheté des jumelles, et parce que l'école, ouais, parce que l'école était juste en bas du bâtiment là où j'habitais à l'époque, d'accord. Et que j'avais des jumelles pour observer est-ce qu'il joue mon fils avec d'autres enfants, ouais. Comment ça, et comme j'étais déléguée de parents d'élèves, ouais. Donc et il fallait que je surveille tout ça.
À l'époque, il n'y avait pas le 119.
Et à l'époque, il y avait.
Donc l'enfant n'appelait pas le 119.
Oui. Non.
Vous imaginez qu'aujourd'hui, il appellerait le 119. Oui. Ma mère me regarde avec des jumelles depuis.
Elle me surveille.
La prise de recul en tant que parent est très difficile.
Bien sûr.
On est pris dans nos émotions.
Bah, c'est notre bout de chou, et puis on n'a pas envie de.
C'est un bout de nous.
Un bout de nous, et puis de voir qu'il subit une hagra, excusez-moi, je le dis un mot en arabe, oui, oui, de oui. L'oppression, je vais le traduire en oui. Français, dans la cour de récréation, c'est pas agréable.
C'est même
quoi.
Plus compliqué parce qu'il y a aussi le système de représailles. C'est-à-dire qu'on peut amener oui. L'enfant à dire bah, dis-moi ce qui s'est passé, je oui. Vais aller voir, parce qu'on oui. T'a touché, parce qu'on a touché un bout de moi finalement.
Oui.
Je vais aller voir, je vais te défendre. Et on pense faire une bonne action, et en fait, pas du tout, parce qu'il y a les représailles derrière. Donc il faut en parler à notre enfant, est-ce que tu as envie que j'aille le
oui,
voir?
Parce que moi, oui. Je connais des parents qui vont tout de suite aller voir la maîtresse, ouais. Qui
oui.
Veulent parler
plus,
aux parents des autres.
Les autres, prendre voilà. L'enfant à partie, alors que c'est qu'une
non, c'est
une dispute, une bagarre d'enfants.
C'est difficile, et en plus, il peut y avoir pas mal de malentendus. Moi, j'ai déjà eu le cas où il y avait des malentendus. Finalement, il n'a pas fait exprès, il s'est excusé. Donc, il faut aussi apprendre, enfin, je le parle pour moi aussi, hein, oui. Dédramatiser aussi, décomplexifier.
Et offrir cet instant-là, c'est un instant d'apprentissage aussi pour l'enfant. Qu'il apprenne justement à se défendre. C'est quoi? À quel moment tu sens que tu es malmené, que tu es maltraité? Parce que souvent, et on le voit surtout quand ils sont ados, où ils vont commencer à se insulter ou à se donner des sobriquets ou à, et oui. Dire, toi, t'entends le truc, tu dis quoi? Mais tu oui. Le laisses te parler comme ça, tu lui laisses. Non, mais c'est rien, c'est entre nous. Non, c'est pas rien, c'est pas entre nous.
Oui, la puissance des mots aussi. C'est... Mais après, tu vois, ça, c'est un très bon exemple. Mais finalement, quand ils sont ados comme ça, il y a aussi ce côté où on rigole et puis on se teste un petit peu pour voir.
Oui, pour voir jusqu'où on peut aller.
On est cool, c'est pour montrer un peu le côté cool.
Oui.
Qu'est-ce qu'on doit. Ben, je n'en suis pas là, mais quand on va être.
Oui, ça se prépare. Ça se prépare.
Prépare-moi, s'il te plaît, Karima, parce que quand ils vont être ados, c'est d'autres soucis.
Oui,
aussi.
Oui, oui.
Donc c'est un accompagnement qui est encore différent.
C'est ça, c'est comment enraciner nos enfants dans cette non-violence, c'est-à-dire le refus de la violence. Parce que je peux, tout à l'heure on parlait de bousculer. Mmh. Bousculer, ça arrive très très souvent dans les couloirs, dans la cour de récréation, dans la classe aussi. C'est quand tu es bousculé, c'est comment tu peux t'affirmer? Comment aider nos enfants à affirmer leur présence et à affirmer que là, non, on a été trop loin.
Voilà, et ça tombe bien puisque c'est le sujet ce matin jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et avec Karima Chadibaou aujourd'hui, nous avons invité Sonia du compte Instagram du Bleu par ici, un compte où vous parlez de votre vie de maman avec vos enfants, de la vraie vie, de la théorie à la pratique.
Les coulisses de la vraie vie, tout à fait.
Mais c'est vrai que bon, on donne beaucoup d'outils, mais on a bien conscience parfois que ce sont des outils. Et que ça peut ne pas se passer dans la vraie vie, comme on vous a dit que ça se passait à la radio.
Oui,
hein.
C'est clair, c'est clair.
Parce que les enfants, c'est de l'humain.
Exactement, et puis c'est une question d'adaptabilité, de souplesse, de flexibilité. Comment je m'adapte cet outil, comment je me l'approprie et comment je le mets en place dans ma vie avec la personnalité de mes enfants, la mienne, nos besoins, et la situation là.
Personnaliser.
Voilà, finalement. exactement. Personnaliser, s'approprier le.
Puis des fois, les outils ne correspondent pas forcément tous à la personne.
Oui.
C'est vrai qu'on a besoin nous les mamans d'entendre un petit peu qu'il n'y a pas de solution magique en fait.
Oui.
Des fois,
oui.
Il faut aussi être patient. Enfin, on a besoin aussi de nous remettre en question, nous les mamans, sur plein de sujets.
Oui, oui.
Moi, la première, et c'est pour ça que cette page existe, c'est que quand je reçois des témoignages, ben, je me remets en question. Et je réalise aussi des fois que ça ne se passe pas aussi bien partout, que j'ai peut-être cette chance-là, ou peut-être au contraire que je peux améliorer les choses. Enfin, on a besoin, nous, l'être humain, de nous remettre en question.
Et de voir ce qui fonctionne.
Et puis essayer.
Et puis une boîte à outils, on change d'outil.
Ouais, on change d'outil. Et puis moi, je vois comment j'utilise ma boîte à outils. Des fois, mon marteau, je ne l'utilise pas que pour clouer, que pour planter un clou. Je l'utilise aussi pour plein d'autres choses.
Ouais.
Voilà. Mais des fois, on oublie. Exactement. Ouais. C'est avoir cette adaptabilité, cette flexibilité comportementale.
Ouais. Alors, on parle souvent d'apprentissage dans cette émission. Est-ce qu'on apprend à des enfants... alors je ne sais pas si on dit subir la moquerie, les jalousies, le fait que les enfants veuillent pas jouer avec vous, les bagarres, ou pas du tout? Est-ce qu'on leur apprend ça?
Alors déjà, le mot subir, moi, je sais pas ce que tu en penses, Sonia, mais moi, j'aime pas ce mot.
Il est un peu, pas très à l'aise, là.
Pas très à l'aise, parce que ça veut dire que quand on subit, on est passif. Et on n'arrête pas d'enseigner à nos enfants, de leur apprendre à être actifs, c'est-à-dire à être des acteurs de leur vie et de ce qui se passe, même dans des situations sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Par exemple, je n'ai pas de contrôle dans la cour de récréation sur mes camarades, les moqueries, au lieu de les subir, c'est-à-dire je deviens... Qui subit ? C'est la victime. Donc ça veut dire que je vais endosser le rôle de victime et devenir, et vous savez, une victime, on la voit tout de suite dans sa physiologie, dans sa posture, comment elle marche, comment elle parle, comment elle rase les murs. Dans la cour de récréation, elle n'est pas au centre. Donc plutôt que subir, je vais plutôt devenir acteur. Donc on va lui dire, ben, avec qui tu es bien ? Avec qui tu te sens pas très bien ? Ou plutôt d'être dans l'évitement aussi, parce que souvent c'est ce qu'on fait, on dit ben, évite ça.
Ça renvoie un peu à la confiance en soi.
Absolument. Tu as dit le mot magique.
C'est le mot clé, en fait, on va dire, parce que la confiance en soi, elle se construit à partir de là pour moi. C'est vraiment là où l'enfant va prendre conscience que, ben, déjà, nous, parents, on doit les mettre aussi en valeur. Alors, pas trop en étant aussi cohérente, parce que trop dans t'es parfait, c'est pas bon non plus. Mais la confiance en soi, elle se construit. C'est pour ça le mot subir. Ça va pas aller avec la confiance en soi.
On subit pas la moquerie.
Non, on la subit pas. Ouais. On la subit pas et on va donner. On parlait d'outils, de la caisse à outils et des outils. On va donner l'outil à l'enfant. On va transférer une compétence. On va lui donner l'outil pour qu'il puisse justement dans cette situation de difficulté, dans cette situation où il n'est pas à l'aise. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour sortir de cette situation ? Et la solution, elle doit venir de lui. C'est pour ça qu'il faut installer le dialogue.
Oui, la communication. De toute façon, il n'y a pas de... Mais typiquement, si on prend un exemple. Mon fils rentre à la maison et il me dit... je vois qu'il n'est pas bien. Parce que déjà, il ne va peut-être pas l'amener lui-même. Je vois qu'il n'est pas bien. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sens que ça ne va pas et tout. Tu sais que tu peux tout me dire. Tu peux tout me dire. Je suis prête à tout entendre. Ok. Écoute, maman, aujourd'hui, il y a un garçon, il m'a poussée et il l'a fait exprès. Qu'est-ce que moi, en tant que parent, quelle posture je dois adopter pour l'aider finalement à être, pas subir, être alimenter sa confiance en soi. Voilà, moi, je parle toujours de jauge. Je veux remplir la jauge de mes enfants d'amour, de confiance en soi. Je veux qu'on va vers ça. Donc, qu'est-ce que je lui propose ?
Alors, qu'est-ce que tu lui... justement, déjà, la première des choses, il faut séparer, parce que là, quand il dit, ton enfant, il dit, oui, il y a un camarade qui m'a bousculé, et en plus, il a fait exprès. Donc là, il y a, quand on écoute la phrase, il y a une distorsion. C'est quoi une distorsion ? C'est-à-dire, il a créé un lien entre, il a fait exprès, et il m'a bousculé. Ça veut dire qu'il y a une présupposition derrière, qu'il te veut du mal. Il l'a fait exprès. Donc déjà, il faut l'aider. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il l'a fait exprès ? À quoi tu le sais qu'il l'a fait exprès ? D'accord ? Pour enlever en fait le truc où je suis une cible. Je suis une cible et donc peut-être... Et donc ça veut dire que ça va amener l'enfant à agir, à prendre son pouvoir et à agir sur son comportement. Je ne veux pas être une cible. Je ne veux pas être quelqu'un qui va être stigmatisé avec une étiquette posée. Donc déjà, on l'amène à réfléchir là-dessus.
D'accord.
La deuxième étape, c'est de dire, OK, comment tu aurais voulu réagir, d'accord, quand quelqu'un te bouscule ou te malmène, ou comment tu aurais voulu réagir ? Donc on va l'aider à évacuer d'abord l'émotion.
D'accord.
Okay. Pourquoi ? Parce que évacuer l'émotion va l'aider à réfléchir et à dire... Prochaine fois, je sais comment je vais pouvoir réagir. J'ai solution A, solution B, solution C, solution D.
Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi, je le comprends pas comme ça. Moi, quand mon... Parce que je sais que... Je prends mon cadre de référence aussi. Donc
ceux qui nous écoutent prendront leur cadre de référence.
Voilà, absolument. Mon fils, quand il me dit... il l'a fait exprès, c'est parce qu'il sait quand on ne fait pas exprès. Je lui ai déjà expliqué. Une fois, il a été bousculé. Il m'a dit, t'as vu et tout. Je dis, oui, mais tu as vu. Il a couru. Enfin, il a pas fait exprès. En plus, il s'est excusé. Donc, il sait faire faire la différence entre faire exprès, ne pas faire exprès.
Oui.
Donc, là, en l'occurrence, pour moi, mon fils, je le connais, je sais qu'il a compris que là, c'était pour lui faire du tort. Donc, c'est déjà acté avec lui et avec moi.
D'accord. Alors, dans ce cas-là, l'étape suivante, c'est quoi ? C'est, à ton avis, quand ton camarade te fait ça,
d'accord,
qu'est-ce qu'il cherche ?
Ok.
Il cherche de l'attention ? Il cherche à prendre le pouvoir sur toi, à prendre l'ascendant, parce que c'est ça en fait les jeux de. On parlait de jeux de pouvoir. Il faut... Non, je vous assure, Philippe. Bah,
à 6 ans, c'est compliqué.
C'est un peu difficile, je trouve.
Pas du tout. Vous pouvez faire ça à l'âge de 4 ans, Philippe.
Alors après, 4 ans. J'ai jamais essayé.
En moyenne section.
C'est mes freins, moi.
Alors moi, c'est des choses que je fais au cabinet. Quand je reçois des enfants au cabinet, quand j'ai au cabinet de consultation, voilà. Quand je reçois et que les parents me disent oui, il a fait. Je dis ok, très bien. On va déjà se calmer. On va respirer un grand coup. Ok, donne-moi toi ton analyse. Comment toi tu as vu les choses avec des petits bouts de choux de 4 ans. D'accord, et on le fait à travers le jeu et à travers le dessin. Il me dit oui, alors il le dessine avec des éclairs, des machins. C'est la brute de la classe. Voilà, j'ai peur dès que je le vois, il sort en premier. J'attends. Alors j'avais reçu un petit enfant de 4 ans qui était en moyenne section et qui me disait j'attends qu'il sorte. Donc ça veut dire qu'il avait mis en place des stratégies de défense. Ouais. Alors moi j'ai valorisé ça. J'ai dit mais tu te rends
c'est
compte
malin.
C'est génial, ouais. Tu es super malin. À 4 ans, tu fais ça déjà, tu as mis des stratégies. Ok.
Pour son confort.
Pour ton confort. Mais maintenant, tu peux aussi montrer que tu existes et que tu as ta place et que tu n'as pas à raser les murs et attendre que lui sorte pour que toi, tu puisses sortir aussi. Donc du coup, on a travaillé là-dessus, tout en valorisant ce qu'il avait mis en place et en même temps en disant, tu as aussi d'autres options.
D'accord.
En rappelant que le fait de se défendre, ce n'est pas de la violence.
Non,
oui,
on reste dans le cadre de la non-violence.
On reste dans
Du sens, en fait.
Donner du sens, et je vais dire un autre mot, de l'assertivité. C'est du domaine de l'assertivité.
C'est violent.
Vous avez vu ça? L'assertivité, c'est quoi? C'est un mot qui vient de l'anglais, to assert. Ça veut dire affirmer, s'exprimer, montrer que vous existez, que vous êtes là, sans violence ni agressivité. Oui. Dis ce que tu penses, dis que c'est inacceptable, que ça je n'en veux pas, mais tu le fais sans agresser, sans violenter, sans humilier, mais c'est magnifique quoi. C'est difficile, ça demande un grand travail.
C'est un cheminement, là.
Et c'est un chemin. Oui, mais puisqu'on a conscience de ça en tant que parent ou en tant que professionnel, en tant qu'enseignant. Le transmettre à nos enfants. Oui. Et c'est juste magnifique.
Oui. Mais tu as raison, parce qu'en fait, des fois, nous, les mamans, on se met des freins.
Oui.
C'est-à-dire que là, tu vois, typiquement, je viens avec mon idée de me dire, ah bah attends, il est trop jeune. Et c'est un peu ce que tu as dit aussi.
Oui, moi, je pensais que c'était des arguments un peu.
Voilà. Mais en fait, si on n'a pas essayé, on ne sait pas. Puis on n'a rien à perdre à essayer.
Après, c'est comme l'enfant le comprend.
Oui, mais c'est à nous de donner du sens.
Oui, mais on est sur le plateau, on est entre nous, entre adultes. Mais bien sûr que quand on va parler dans la vraie vie avec l'enfant, on va l'amener avec ses mots à lui et avec la plus petite chose. Ce serait quoi? Moi, un autre petit garçon, mais là de 6 ans, donc en CP, et qui me dit, moi je veux juste voir ta posture. Quand tu vas en cours de récréation, comment ça se passe? Et il me montre donc les épaules fléchies comme ça, la tête, il regarde le regard vers le bas. Et il me dit, mais ils arrivent et à chaque fois, là, cette fois-ci, la mère l'a ramené. Pourquoi? Parce qu'il est tombé. D'accord. Il est resté par terre et il pleurait le chnouna. Il y en avait partout. C'était la maman, le psychodrame.
D'accord.
Je lui ai dit, ok.
Il y avait de la chnouna.
Il y avait de la chnouna partout. Ah ouais. Donc, je lui ai dit, écoute, on va juste faire quelque chose. Quelqu'un qui est fier de lui, comment est-ce qu'il marche? Comment est-ce que les autres voient avec assurance?
Ouais.
Je lui dis, juste tu fais ça. Et je vous assure, ça a apporté du changement. Pourquoi? Parce qu'il envoie l'information que je suis fière, je suis à ma place. Et attention, celui qui va venir se frotter à moi, il va y réfléchir à deux fois.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de la maman, tu as dit maman psychodrame. Est-ce que nous aussi, les parents, on n'a pas un rôle à jouer sur l'attitude qu'on va... Parce que les enfants sont des éponges.
Oui.
Donc, est-ce que moi, si je suis là... Ma mère m'a toujours appris ça.
Such a drama queen, comme on dit.
Voilà.
J'ai toujours vu ma mère.
Oui, c'est ça.
Après, attention, parce que ça, on peut être dans... faut être dans un juste équilibre.
Oui.
Mais ma mère, je ne l'ai jamais vue montrer ses faiblesses. Elle était toujours là. Je me suis dit, mais c'est Wonder Woman.
Sois forte.
Ouais, très très forte, vraiment... Elle nous montrait qu'il fallait être fort, il fallait montrer une image forte. Donc après, on en discute aujourd'hui et je lui dis, mais aussi c'était intéressant de voir tes émotions, parce que il faut aussi qu'on parle des moments où on a des moments, des coups de mou. Elle dit oui, mais ce que tu vas montrer au monde, ils vont tout de suite se dire, ah bah oui, elle a de l'assurance.
Oui,
Et je me dis, ça se déploie sur nos enfants.
Oui.
D'ailleurs, votre génération dit, ma mère, ce warrior.
Ouais,
c'est un warrior.
Ouais, exactement.
C'était ça.
Un bonhomme, ma mère.
voilà. C'était des warriors, les mecs.
C'est ça. Ouais. Absolument.
Elles n'avaient pas d'émotion, pas d'état d'âme.
Et c'est pour ça que c'est important de montrer à nos enfants on peut être affecté. Je suis ta maman et j'ai mal. Ça, c'est montrer sa vulnérabilité. Donc ça veut dire quoi? Lui expliquer à l'enfant la différence entre la vulnérabilité et la faiblesse. Il y a deux mots différents pour dire deux choses qui sont complètement différentes.
Absolument. Et vous nous l'expliquerez
après
la pub.
Ça marche.
Hein Le suspense, je sais, est insoutenable, mais le temps d'une courte page de publicité, vous le savez. Et on revient dans un instant et on continue à vous donner ce matin des trucs pour la cour de récréation.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, alors on a Sonia qui est avec nous ce matin du compte Instagram du Bleu Parisi. Elle nous raconte sa vie de mère de famille. Et vous n'êtes pas que mère de famille, hein, vous avez
toutes les casquettes.
Voilà, c'est aussi une vie professionnelle. Vous parliez de votre mère tout à l'heure, mais vous interviewez votre mère, hein, qu'on peut retrouver aussi sur votre compte Instagram.
Absolument, j'ai fait un live avec ma maman. Ouais. Et d'ailleurs, on me redemande sur d'autres thématiques. Donc, en fait, on a voulu parler des deux générations.
Oui.
Nous sommes deux générations différentes, une génération qui a travaillé, une génération qui n'a pas travaillé. On a voulu les confronter et se dire qu'il n'y a pas de bonne réponse. Chacune doit penser à son bonheur, à ce qui lui font du, ce qui lui fait du bien. Et ça a beaucoup plu.
Ouais. Et on lui fait un gros bisou à Khadija. Gros bisou ce matin.
Karima, donc vous deviez expliquer deux mots.
Oui, pardon. Tout le monde est là. La question de la vulnérabilité et la question de la faiblesse. Donc la vulnérabilité, peut-être je vais commencer par la faiblesse. La faiblesse, c'est quand je me sens faible, quand je ne me sens pas à la hauteur, quand je me sens... Il y a l'idée dans la faiblesse, l'idée de il manque quelque chose. D'accord. L'idée quelque chose de pas fini, pas complet.
D'accord.
Et de quelque chose qui n'est pas aussi à la hauteur. Okay. Il y a les deux dimensions. Comment ça se remplit, le vide, et quelque chose qui n'est pas élevé, qui n'est pas à la hauteur.
D'accord.
Par exemple, je me sens faible dans cette situation, j'ai pas assez de force, j'ai pas assez d'énergie pour pouvoir m'affirmer, j'ai pas assez de répondants, vous savez, et les enfants le disent surtout quand ils sont ados, quand ils sont au collège, quand ils répondent au tac au tac, ils disent oui, moi j'aimerais bien avoir la répartie, ils le disent. Oui. Et donc ils le vivent aussi comme une faiblesse. La vulnérabilité, c'est quoi? C'est dire cette chose je ne l'ai pas, et elle vient en fait contribuer à quoi? À m'aider à m'épanouir et à me construire. La vulnérabilité, ce n'est pas être faible. C'est dire, ok, par exemple, tout à l'heure, hors antenne, on parlait de quelque chose par rapport au contrôle, de reconnaître que je suis quelqu'un dans le contrôle, c'est reconnaître sa vulnérabilité. Et vulnérabilité, ça veut dire que je travaille dessus. Parce que la vulnérabilité se transforme en force, elle se transforme en puissance.
Donc il y a quelque chose de très positif dans ce que tu dis par rapport à la faiblesse où on sent qu'il y a beaucoup plus de choses négatives.
Et la faiblesse, il y a quelque chose de l'ordre du dénigrement.
Ouais.
Dans la vulnérabilité, je ne me dénigre pas. Je suis,
tu fais un constat et tu vas vers de l'amélioration.
Vers de l'amélioration et vers de l'écoute de soi.
D'accord.
Dans la faiblesse, tu ne t'écoutes pas. Tu te flagelles.
D'accord.
Tu te dis, mais pourquoi je ne suis pas à la hauteur? Mais pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi elle arrive? Mais je suis faible, je suis une faible personne.
Il y a cette notion de le négatif attire le négatif d'un côté et le positif, on veut changer, on veut s'améliorer.
Exactement. Et la vulnérabilité nous amène à une grande, grande, grande vertu avec un grand H. Celle de la vertu de l'humilité. C'est-à-dire, c'est magnifique. C'est magnifique. Et quand on est justement dans cette vulnérabilité, de la transformer en force, en puissance, et ce n'est pas se dire je ne suis pas capable de. On parlait de confiance.
Ouais.
Quand on est faible, c'est que je ne suis pas capable de. J'ai pas la bonne émotion, j'ai pas la bonne attitude, j'ai pas la bonne pensée. Donc je suis quelqu'un de faible. Ouais. Qui aime les faibles?
La société, pas trop ça.
Non, elle n'aime pas ça. Vous voyez la différence des deux, Philippe?
Je vois la différence.
Vous voyez la différence, très bien.
On va faire un exercice. Maintenant, comment on accompagne un petit enfant qui rentre de l'école et qui dit « mais personne ne veut jouer avec moi ».
Ok, alors ça, c'est la grande question.
Alors ça, déjà, il faut beaucoup de... J'avais ce souci-là, c'est un très bon exercice, parce qu'il y a eu, en début de maternelle, moi, j'utilise beaucoup les livres, parce qu'en fait, je dois aussi gérer mes émotions. Comme ce sont mes enfants, j'ai pas cette prise de hauteur.
Et je vais juste interrompre une demi-seconde, juste pour dire à nos auditeurs et auditrices, allez sur son compte, vous allez voir, elle a partagé des bibliographies magnifiques. Voilà,
comme on aime,
parce que nous aussi on fait la bibliothérapie, mais la bibliographie pour les enfants, franchement, j'ai
très touchant. Et du coup, c'est vrai que je montre beaucoup pas mes faiblesses, mais je montre la maman, elle est pas parfaite, d'accord, elle doit aussi gérer ses émotions. Moi, c'est un vrai travail que j'essaye de faire. Et ce que j'utilise, c'est les livres. des fois, mes enfants, ils n'ont pas forcément envie de parler avec moi. Et je ne sais pas vous, les parents, mais dès qu'on sort à 4h30, il faut arrêter de leur poser la question. Alors, ça s'est passé comment? Parce qu'ils n'ont pas envie. Est-ce que vous, après le boulot, vous avez envie de raconter
On a juste envie de lui dire... Voilà, voilà. Poète cacahuète.
Je force et je n'obtiens rien. Et j'obtiens tout au moment du coucher, au moment de l'histoire du soir, tout se passe. Ouais. Alors des fois je suis crevée, j'ai pas envie. Mais des fois je me dis je vais capitaliser sur ce moment-là parce qu'il est précieux.
Super.
Et en fait, je lis l'histoire du soir. Il y a eu cette fameuse histoire où c'était une petite fille qui s'est un peu, elle s'est recroquevillée sur elle-même. Elle était triste parce qu'elle n'arrivait pas à faire un projet. Enfin, je sais plus exactement l'histoire. Et mon fils me dit. Ah ben, elle me fait penser à moi quand je suis en cours de récré. Des fois, ils veulent pas jouer avec moi. Et on a pu aborder ce sujet-là. Ouais. Bon, sur le coup, j'étais meurtrie. Hein. Je vous dis très franchement, je me suis dit, aïe, on me touche là, on me touche moi. Mais il faut que je l'accompagne, il faut que je l'aide. Et du coup, on a pu aborder les choses. Et on a pu, je lui ai expliqué, alors après, je ne sais pas, Karima, tu vas nous dire. Mais je lui ai expliqué que dans ce monde, souvent, moi la première, hein, en cours de récréation, on va vers les gens qui sont cool et tout. Mais il y a tellement de monde, on peut aller vers toute personne sera intéressante et t'apportera beaucoup de choses. L'être humain ne le comprend que au fil du temps. Moi, je l'ai compris au lycée, hein, ça a pris du temps.
Oui.
Mais j'ai compris que toutes les personnes peuvent être intéressantes, elles peuvent t'apporter des choses. Ne va pas forcément vers les gens qui te rejettent. Il y a plein de personnes qui sont aussi intéressantes. Et donc, du coup, il l'a compris, le message est passé. Pourtant, j'avais peur de ne pas utiliser les bons mots. Et fait de façon très naturelle, très spontanée, je pense que le message est passé.
Oui.
C'est le dicton, hein, c'est fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. C'est comme ça, on veut toujours plaire à ceux qui ne nous aiment pas.
Et il s'est retrouvé à manger avec des personnes qui, au début, n'étaient pas trop... voilà. Donc c'est très surprenant quand même.
C'est qu'il puisse, ce que tu as fait là, Sonia, c'est génial, hein, parce que justement tu as offert un espace de parole et de pouvoir libérer aussi ce qui lui fait de la peine. Exactement. Et vraiment, moi, tous les parents qui nous écoutent, c'est vraiment de s'attacher à ça. Parce que souvent, tu as dit, j'étais meurtrie, et là, le parent, quand il est touché, quand il est affecté, il a envie de trouver une solution tout de suite pour cesser la douleur.
Oui.
Pour la faire cesser. T'appuies sur un bouton, ça existe plus, ça y est. Mais le problème, c'est qu'on n'aide pas l'enfant à grandir. Non. Tandis que là, quand tu lui offres un espace de parole où tout est acceptable, où tout a sa place, là, il va se décharger et donc il va trouver sa solution tout seul.
Mais c'est vrai que c'est intéressant quand tu dis, et j'espère pouvoir continuer dans ce cheminement-là, de lui proposer de lui-même trouver des solutions.
Exactement.
Ça a changé pas mal de choses en proposant à mon enfant, bah, toi, tu t'en penses quoi? Parce qu'on pense, on veut, comme tu dis, on veut trouver une solution, on veut avoir tout de suite, et on leur dit pas, mais attends, toi, tu en penses quoi?
Exactement. Ah,
d'accord, mais tu penses qu'il faudrait faire quoi?
Oui.
Ça change pas mal de choses.
La solution est en soi.
Exactement. Absolument. Il y a tout, et notre enfant, il est complet, il y a tout en lui. C'est juste, maintenant, nous, en tant que parents, on est des guides. C'est juste lui dire, bah écoute, si tu prends cette route-là, voilà, il y a les embûches, il y a ça, il y a un précipice là.
On a pas de mode d'emploi de parents, donc du coup, on se dit, on réagit avec notre cœur.
Oui, mais alors aujourd'hui, si. Alors là, il y a des modes d'emploi.
Oui,
là,
un peu trop dans tous les sens.
Voilà, du temps de votre mère, il y avait deux livres qui se battaient en duel. Maintenant,
Moi, il y en avait du temps de ma mère, hein, mais je pense qu'avant ça.
Non, du temps de la mienne, on va aller, moi, chez la génération un peu encore au-dessus, d'accord.
Moi, ma mère m'a accompagnée sur ces choses-là.
Ouais. C'est vrai.
Elle a ouvert la parole, ouais, elle a communiqué beaucoup plus que sa mère. Elle a cassé l'héritage et elle a fait quelque chose. Moi, je me sentais en confiance, en fait, de parler à ma mère.
Mais quand on évoquait la question, et d'ailleurs, vous l'évoquez, hein, cette question sur votre page Instagram de comment parler de sexualité avec les enfants.
Comment aborder la sexualité.
Voilà.
Sujet clé. Hein,
au niveau des enfants.
Oui.
Ouais.
Il faut le faire au niveau des enfants.
Ça part de là.
Voilà,
ça part de là. On se met plein de gênes, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une différence entre j'ai honte, je vais faire quelque chose de mal, je me sens gênée par parler de ça parce que je crois que c'est quelque chose de mal. Non, la sexualité, c'est quelque chose de normal.
Oui.
C'est quelque chose on doit en parler. Moi, j'en parle. D'ailleurs, c'est un sujet à polémique parce que j'avais mis ma vidéo sur TikTok et certains m'ont dit non, mais vous n'avez pas le droit de parler de ça, ils sont trop petits. Enfin. Vraiment chacun.
Parce qu'on est toujours dans l'idée que si on leur en parle, c'est les inciter à la débauche.
Oui,
enfin, voilà.
je vous invite à regarder mon réel sur aborder la sexualité avec les enfants.
Je l'ai vu. Et d'ailleurs, vous avez un livre qui vous accompagne qui a l'air pas mal.
Vous avez le livre sur de Zina Amraoui, Chut Sehchouma. Il faut le laisser traîner, comme elle dit dans le salon, même pour vos ados, parce que aborder la sexualité, c'est protéger votre enfant. Ça, c'est une responsabilité que l'on a, nous, en tant qu'adultes. Vous n'avez plus le choix. Mmh. Votre enfant, nous, on pense que notre enfant, il sait rien de la sexualité. À 6 ans, il sait déjà pas mal de choses.
Enfin, il a une idée. Enfin, comme le dit Nadia Elbouga.
Notre société est sexualisée, hein, je suis désolée. Oui, mais
comme dit Nadia Elbouga, ce sont les éducations aux sexualités et à l'affectivité. Voilà.
Bah, en fait, c'est surtout que le monde. Si nous, on ne dit rien à nos enfants, Dehors, ils vont sortir, ils auront toutes les infos.
Mais il va trouver toutes les infos. Et puis dans la cour de récréation aussi. On parlait de la cour de récréation où les gamins qui vont ramener, il y a des enfants qui ont déjà des téléphones ou des choses comme ça, où vont ramener des images, des images pornographiques, quoi. T'es pas préparé
à ça, tu te prends ça. Alors que le parent, il a son rôle à jouer, tout doucement, d'amener les choses. Dites-vous que c'est pas chouma parce que vous accompagnez votre enfant en délicatesse. C'est-à-dire que même s'il se prend des images et c'est dur parce qu'il s'en prendra, vous ne serez pas tout le temps avec lui. Et bien vous avez fait ce travail en amont, vous avez préparé votre enfant.
Et parce que justement, on sort du subir. Il ne subit plus, il n'est plus passif, il devient actif. J'adore. Exactement, il est acteur. Voilà, et ça c'est fondamental.
On n'a pas balayé tous les sujets, mais c'est vraiment le début. Déjà, vous avez des clés pour la cour de récréation.
La cour de récréation.
Voilà. Comment est-ce qu'on prépare un enfant à la différence des autres ou à sa propre différence? Qu'est-ce qu'on lui donne comme outil?
Alors déjà, le premier, c'est de le confronter déjà à la différence et de lui faire remarquer qu'il soit pas en pilotage automatique. Ça veut dire quoi, un pilotage?
Vous appuyez au bon moment parce que c'est mon prochain réel.
C'est vrai.
Ouais. Je trouve que aborder la différence.
Venez me voir au cabinet.
Voilà.
c'est un excellent sujet parce que on n'en parle pas assez.
Mais les enfants, en fait, nous on le fait et on le voit avec nos yeux d'adultes. Mais les enfants, ils sont déjà dans la différence.
Ah bah eux.
Mais bien sûr.
Alors là, ils pourraient nous apprendre.
Elle est blanche, l'autre il est noir, l'autre il est café au lait, l'autre il est déjà les amener. Il faut que dans notre projet éducatif en tant que parents, qu'il y ait déjà cette culture à la différence et à l'ouverture. D'accord? Les enfants, ils l'ont déjà naturellement et c'est spontané.
C'est vrai, c'est ce que j'allais dire.
Et c'est souvent les parents qui viennent bloquer, dire non, pas lui.
C'est bien, c'est pas bien.
Non, mais après, on ne sait pas aussi quelle. Moi, je sais que j'ai abordé la différence par le livre aussi, que je t'invite à découvrir. C'est La récré des bulles. C'est aborder l'autisme.
Oui.
Et du coup, au début, j'étais un peu. Je me suis dit, oh, punaise, je vais utiliser les mauvais mots. J'ai paniqué. Et en fait, eux, ils ont amené. Mais c'était tellement naturel.
Mais c'est fluide.
C'est nous, les adultes. On a un souci, en fait. On a des blocages.
Exactement.
Qui sont bêtes, en fait.
Oui.
Il faut dépasser ça, parler de choses. En fait, il faut lever les tabous.
Exactement.
Façon très, très.
Moi, juste pour donner un exemple, je me souviens. Moi, mes enfants, ils ont. Bon, moi, j'aime pas trop les poupées, mais mes filles, bon, j'ai pas joué avec les poupées, mais. Parce que j'aimais pas ça, j'avais peur des poupées. Mais mes filles, je leur avais acheté des poupées ethniques. C'est-à-dire de toutes les cultures.
Ma
fille, quand elle avait la poupée, la première fois, la poupée blonde aux yeux bleus, et vous savez ce qu'elle m'a dit, ma fille cadette? Elle m'a dit, elle me ressemble pas, elle l'a jetée.
Oui,
elle est pas comme moi. Et c'est là, moi, où j'ai tilté, j'ai dit, attends, mais l'identification, c'est hyper important. Donc, ouvrir à la multiculturalité, oui, on s'arrête, ça y est, c'est bon. Donc, la poupée ethnique, c'est déjà un bon.
On reviendra là.
Karima Shadibaou est en voie de mamounisation. La mamounisation, c'est. Quand on vous dit d'arrêter, c'est d'accélérer en pensant que si on parle plus vite, on va pouvoir en dire plus.
Ok, d'accord, j'arrête là.
L'être humain est comme ça.
Voilà, merci Sonia.
Sonia, vous nous donnez rendez-vous sur votre compte Instagram. Absolument. Du Bleu par ici. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Karima, à mercredi.
À mercredi.
Passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.